Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Frapper fort, déstabiliser, harceler, dévitaliser les mouvements islamistes. Ces mots sont ceux du ministre de l'Intérieur pour répondre à l'émotion suscitée par la décapitation de Samuel Paty. Gérald Darmanin tape tous azimuts, perquisition, visite domiciliaire, fermeture de la mosquée de Pantin, promesse de la dissolution d'associations, expulsion de fichiers S étrangers. Le garde des Sceaux promet, lui, de son côté, des moyens contre la haine sur Internet et estime qu'il n'y a pas eu de faille dans le suivi du jeune Tchétchène. Alors, quelles sont les dernières révélations de l'enquête? Quels sont les moyens dont dispose le gouvernement pour lutter contre le terrorisme? Peut-on être efficace et rester, malgré tout, dans l'état de droit? Terrorisme, sommes-nous désarmés? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Vous signez un dossier dans le prochain numéro de votre magazine qui s'intitule « Le gouvernement à l'heure de la riposte », numéro qui consacre sa couverture naturellement à Samuel Paty. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Votre livre « La communauté », coécrit avec Ariane Chemin, est publié chez Albin Michel. Éric Delbecq, vous êtes spécialiste en sécurité intérieure. Vous avez été responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Je cite votre dernier ouvrage, Les Silencieux, ne nous trompons pas, les salafistes menacent la République, publié aux éditions Plomb. Enfin, Mathieu Delahousse, vous êtes grand reporter à l'Obs, spécialiste des questions de justice. Vous suivez, je le précise, le procès des attentats de Charlie Hebdo qui se tient actuellement à Paris. Et enfin, vous êtes l'auteur de La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français, publié chez Fayard. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Avant d'avancer sur les mesures annoncées par le gouvernement, un mot tout de même, Bruno Jeudy, sur cet hommage qui sera rendu à Samuel Paty demain. Ça va se passer à la Sorbonne, avec peut-être un hommage un peu différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent.
Oui, le président de la République a d'abord voulu consulter la famille pour voir quelle forme pouvait prendre cet hommage. Une famille qui est restée très discrète hein, depuis l'assassinat de Samuel Paty, le professeur de Conflans-Sainte-Honorine. Et il a été décidé en concertation avec la famille, le président de la République. Ils ont choisi ensemble le lieu de la Sorbonne, lieu hautement symbolique pour un enseignant d'histoire-géographie, ce lieu du savoir. Il y avait aussi en balance peut-être de faire ça au collège de Conflans-Sainte-Honorine, mais au fond, la famille a choisi ce lieu, alors que les lieux habituels de ce type d'hommage, si on se souvient, notamment le colonel Beltrame après Trèbes, c'est les Invalides, où on a l'image rituelle et triste est devenue habituelle en France, hélas, avec cette succession d'attentats depuis maintenant 5 ans, des Invalides, de quelque chose de très solennel, avec une espèce de pression comme ça, toute la République. Là, c'est le choix d'un lieu, peut-être quelque chose de nouveau. L'Élysée parle d'un hommage simple, court, mais qui restera solennel, avec 300 invités, les anciens présidents, les anciens premiers ministres et tous les représentants du pays, aussi les représentants du monde de l'enseignement, évidemment. Oui. En tous les cas, c'est le choix qui est fait. Et le président de la République, qui est resté en retrait depuis sa venue vendredi soir sur les lieux, hein, juste après l'assassinat, n'a pas pris la parole depuis. Il la prendra donc demain soir. Ça ne l'a pas empêché, dans le huis clos du Conseil de défense, de délivrer des consignes extrêmement précises. Et on voit ces ministres
se déployer. Et des phrases que nous allons commencer et commenter ce soir. Hein.
La peur doit changer de camp, les islamistes ne dormiront plus tranquilles, et on voit Gérald Darmanin qui se déploie depuis.
Et effectivement, Raphaël Baquet, il y a bien ces deux temps, et qui sont d'ailleurs très rapprochés cette fois-ci avec le temps de l'hommage, de la commémoration, même s'il n'y a pas eu d'unité nationale, il y a quand même ce temps de choc, de sidération dans le pays, porté et incarné par le président de la République, et à la fois, on voit bien un exécutif qui veut montrer qu'il agit.
Oui, il y a un changement de tonalité. Il y a évidemment un hommage tout à fait légitime et très largement partagé, à vrai dire, dans le pays. Hein. Il y a eu un véritable choc et donc il y aura cet hommage. Mais c'est vrai que la critique qu'on a entendue, d'ailleurs venue essentiellement de l'opposition et de la droite, disant « ça suffit les bougies », c'est-à-dire ouais. « se contenter de l'émotion n'est plus suffisant. Et ça, on voit bien que c'est quelque chose de partagé par le gouvernement, c'est quelque chose de partagé d'ailleurs probablement par le pays tout entier. Maintenant, l'action est quand même très importante. Et ça, le président de la République l'a compris d'emblée. Il a associé d'emblée, en fait, il a fait un va-et-vient assez savant depuis quelques jours, depuis vendredi, entre effectivement l'émotion et l'action sans arrêt. Hein. Mm-hmm.
Il y a une adaptation à la situation, puisque manifestement, Emmanuel Macron veut remettre le cran à la hauteur de ce qui s'est passé. Malgré tout, il faut toujours rappeler qu'en 2017, devant son premier discours devant les forces de sécurité intérieure, Emmanuel Macron avait parlé de défis civilisationnels sur cette question. Et puis, il y avait un discours qui avait été très fort cette fois. On parlait des cours militaires avec la sonnerie aux morts qui retentit toujours de façon extrêmement glaçante. Mais celle de la préfecture de police, après les faits commis par Michael Harpon, avait donné lieu à un hommage du président de la République qui, à cette occasion, s'en était pris à l'hydre islamiste où il avait évoqué à l'époque, et ça avait été très noté notamment dans les secteurs du renseignement et de la justice, le fait que ce n'était pas uniquement les professionnels en quelque sorte de la sécurité intérieure, de la défense ou de la justice qui devaient lutter contre cette montée-là, mais aussi tous les citoyens. Il n'avait évidemment pas évoqué l'école à ce moment-là, mais déjà un enseignant avait été frappé, puisqu'il faut rappeler qu'en 2016, un professeur juif avait été victime d'une tentative d'attentat à Marseille.
On va parler ce soir des armes qui sont à notre disposition pour lutter contre le terrorisme. Les mots sont-ils encore des armes? Est-ce qu'il y a une surenchère, vous qui suivez ces sujets depuis très longtemps, de la part du politique, de l'exécutif, quand on entend la peur doit changer de camp ou les islamistes ne pourront plus dormir tranquilles? Est-ce qu'on est dans une surenchère verbale qui accompagne cette lutte contre le terrorisme, à votre avis?
On est nécessairement dans une surenchère verbale au niveau politique, mais je pense qu'elle correspond, comme vous le disiez à l'instant, très bien à l'émotion soulevée, à la réalité de ce qu'est la politique aujourd'hui. Donc moi, ce n'est pas forcément mon champ. En revanche, c'est vrai que ça contraste beaucoup.
Mais vous avez de la mémoire. Donc vous vous souvenez, façon dont on en parlait il y a encore quelques années.
Mais par ailleurs, ça contraste aussi beaucoup avec ce qu'est la réalité de la lutte antiterroriste, qui est une lutte où ceux qui savent ne parlent pas. C'est une lutte à bas bruit au sens propre du terme. Et puis par ailleurs, techniquement, et pour Emmanuel Macron, qui est quand même le chef des armées, quelque chose change de façon fondamentale. C'est qu'il n'était pas encore président de la République à ce moment-là, mais en 2015, la lutte antiterroriste était une lutte qui relevait de l'art de la guerre, en quelque sorte. C'était une lutte où il fallait faire du renseignement, de l'opérationnel, de la filature, du fichage, de la mémoire.
On va en parler.
Aujourd'hui, on est dans bien autre chose. L'effet de Conflans-Sainte-Honorine là-dessus, mais ce ne sont pas les premiers, font qu'effectivement, on voit surgir de nulle part des auteurs. Et là, pour la première fois, on a une autre forme de nouveauté, qu'effectivement, on a des figures de l'islam radical qui apparaissent très clairement dans ce dossier. Mais l'art de la guerre, encore une fois, et il n'était pas du tout appliqué de la même façon en 2015 qu'il l'est aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, sans être leur porte-parole, mais dans ce vacarme politique qui existe. Ouais. C'est vrai que les professionnels soulignent qu'il y a toujours une espèce de dichotomie par rapport à ce qu'ils font. L'antiterrorisme, ce n'est pas l'art judiciaire le plus fin, mais c'est un art de longue haleine, c'est un art de précision. Ouais. Et effectivement, ce n'est pas la caricature de sauter dans des maisons et de casser des portes uniquement.
Et c'est pour les qu'on appelle ça les visites domiciliaires et les perquisitions qui ont lieu, et on va en parler dans un instant. Éric Delbecq, votre avis sur ce climat qu'on commande depuis le début de l'émission, entre à la fois l'hommage, l'émotion, et cette urgence d'agir et de donner des réponses?
Moi, je pense qu'on vit plus un coup d'accélérateur, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont engagées depuis un certain moment, y compris un changement de doctrine d'État, qui court depuis 2016-2017, avec une nette accélération encore en 2019. Il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur en novembre de l'année dernière qui a organisé ce qu'on appelle d'un nom un peu technique les CLIR, qui sont des cellules de lutte contre l'islamisme au sein des préfectures et qui visent justement à tenter de venir à bout de ces lieux de sociabilité islamiste. Mm-hmm. Donc des associations, des clubs sportifs, des endroits dans lesquels on sent qu'il y a un chaudron salafiste. Donc, les événements, bien sûr, tragiquement, font qu'on va aller à marche forcée dans cette direction, mais le changement de doctrine d'État, il est fait, et à mon sens, il a été fait parce que le temps de l'administration n'étant pas celui des médias et de la société civile, il faut toujours le temps que ça infuse très largement, et les services, un certain nombre d'experts, de gens concernés par la problématique, n'ont pas arrêté de dire à l'État, à l'administration, que la problématique, moi c'était le cœur de ma préoccupation, c'est les idéologues, c'est le tissu de sociabilité salafiste.
Est-ce que ça a du sens du coup, et on va en parler ce soir, des associations, des clubs de sport, puisque ça fait partie des mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur, mais si on parle seulement de la mosquée de Pantin, annoncée sur le 20h de nos confrères de TF1 hier, confirme la mosquée de Pantin, parce que cette mosquée a reposté la vidéo en question du parent d'élève.
Pour d'autres choses aussi, quand on va faire un tour
voilà,
du côté
c'est la
du
question
métro
qui est posée.
À Pantin, on se rend bien compte qu'on n'est pas dans un lieu totalement neutre et qu'il y a un certain nombre d'idéologues. Donc si vous voulez, je pense aussi que cet accélérateur, alors ce n'est pas du cynisme d'État, c'est de l'opportunité bien compris d'État, il faut le comprendre. Cette émotion va permettre de rendre ce changement de doctrine d'État plus visible. Ouais. Mais, encore une fois, ça se prépare depuis au moins 3 ans. Le projet de loi va dans la même direction, puisqu'il est là aussi pour faire rendre gorge à un certain nombre d'associations, entre autres. Donc, en fait, il n'y a pas de surprise. Mais on s'attaque enfin au vrai problème.
C'en est temps, la mosquée de Pantin ?
Je pense.
Oui ? Vous le pensez ?
Oui, comme plein
parce qu'il ne suffirait pas de dire c'est parce que cette mosquée a reposté une vidéo dans laquelle il n'y avait pas d'appel au meurtre. Hein. Il y avait la volonté de la part du père de famille de sanctionner. Il y avait du harcèlement, d'une certaine manière, de Samuel Paty. Est-ce que c'est qualifié, d'ailleurs, juridiquement, ce qui s'est passé
la mosquée de Pantin, il y a un relais politique. Alors, est-ce que c'est le rôle d'une mosquée de transmettre ce genre de message ? La réponse est non, puisqu'ensuite, il l'a dit lui-même. Par ailleurs, il y a une personnalité qui est à la tête de cette mosquée, et ça, le ministère de l'Intérieur met bien en avant le fait que sur la scolarisation de ses propres enfants, sur la façon dont il fonctionne au quotidien, pose problème. Donc tout ça fait un espèce d'agrégat.
D'accord.
Après, sur la qualification juridique, on arrive effectivement dans des lois. C'est ça qui est difficile, finalement, sur la vague terroriste qui frappe depuis 5 ans, c'est qu'il faut recréer des lois nouvelles à chaque fois. Aujourd'hui, le fait d'avoir posté ces vidéos, qu'elles aient été reprises par quelqu'un, puisque c'est dans les hypothèses de l'enquête, par quelqu'un qui dit « je vais régler le problème », ce n'est pas constitutif d'une infraction pénale. Ce n'est pas de la complicité par provocation, puisqu'il n'y a pas assez d'éléments pour avoir un élément ni matériel ni moral. En revanche, effectivement, dès aujourd'hui, le Premier ministre à l'Assemblée nationale a mis en avant que peut-être on pourrait arriver à une forme de délit de provocation par les réseaux sociaux. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui s'agrègent au-delà des associations sur le message politique qui est relayé sur les réseaux sociaux.
Mais on peut décider de fermer une mosquée ? C'est aussi simple que ça ?
On peut décider par mesure du ministère de l'Intérieur, par mesure administrative, avec une durée fixe. C'est ce qui se passe sur Pantin.
Elle va fermer six mois à partir de
demain soir. Ouais. Et il y aura des recours possibles devant les juridictions administratives. Et donc c'est possible.
Et ça s'est fait par le passé ? Ça, c'est en général renvoyé devant les tribunaux.
Il y a eu des expulsions de dignitaires religieux qui étaient fichés et qui posaient problème de la même façon. Après, effectivement, aujourd'hui, ce qui existe de façon un tout petit peu plus forte, c'est ce qu'on peut appeler, même si le terme fera peut-être débat, c'est la guérilla judiciaire au niveau des djihadistes ou en tout cas de l'islam radical, qui fait que ces mesures, qui sont des mesures de police administrative, peuvent être contestées.
Et elles le sont parfois devant les tribunaux.
Il y a d'autres éléments factuels, c'est-à-dire que le CLIR, dont je parlais tout à l'heure, ouvre la possibilité aussi de multiplier les contrôles administratifs, d'hygiène et de sécurité, fiscaux, etc., pour voir si ces endroits sont en ordre. Bon, alors il faudrait après prendre le dossier de chacune d'elles, mais il y a aussi des éléments complémentaires qui font dire, de manière un peu forte et caricaturale, mais on n'est pas loin de ça, qu'on va caponiser la lutte.
C'est-à-dire les faire tomber pour autre chose.
Je vais t'avoir pour fraude fiscale. Ouais. Bon, et là, on rentre effectivement dans une guérilla, pas que judiciaire, dans une guerre d'usure, parce que les professionnels réclament ça depuis des années. Vous voulez jouer à ça, on va vous faire une guerre de tous les jours qui va vous épuiser. C'est le principe même de la guérilla. Ouais. Et là, on est sur le dur, c'est ça qu'on doit faire.
C'est ce qui se faisait il y a quelques années, à la fois des fermetures de certains lieux de culte et des expulsions d'imams. Ça s'est plutôt raréfié ces dernières années. Là, manifestement, le choix est fait de repartir sur des méthodes qui ont existé par le passé et qui ont parfois fonctionné. Mais c'est très, très difficile de faire expulser des imams.
Et ça, on va le voir dans le détail, notamment pour les associations. Ce qui est important, et ce que vous nous expliquez les uns et les autres ce soir, c'est que ça ne tombe pas comme ça sur la mosquée de Pantin, parce qu'il y a eu cette vidéo en question. C'est sans doute une mosquée qui était dans le collimateur des services et notamment du gouvernement depuis des mois, voire des années.
Au niveau administratif, oui.
Voilà.
Au niveau judiciaire, judiciaire, il n'y a pas de faute sur la mosquée de Pantin. Il y en aura peut-être sur d'autres qui sont dans le dossier, où effectivement ils étaient dans les yeux du radar, si l'on peut dire, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Et la décision politique, c'est finalement de se saisir des fiches des services de renseignement en disant, cette fois-ci, on passe à l'action. Ça, c'est de la politique.
Alors demain, le président de la République se rendra donc l'hommage de la nation à Samuel Paty, dans la cour de la Sorbonne, on l'a dit, une parenthèse de recueillement, alors même que l'exécutif se démultiplie pour montrer qu'il muscle sa réponse face au terrorisme. Il annonce, dernière annonce en date, on l'a commenté à l'instant, la fermeture de la mosquée de Pantin. Emilia David et Magali Lacroze et Stéphane Lopez.
À peine évoqué et déjà placardé ce matin sur la mosquée de Pantin. Cet arrêté préfectoral officialise la fermeture du lieu de culte pour 6 mois, à partir de mercredi. Conséquence immédiate de l'annonce du ministre de l'Intérieur, qui était hier en direct à la télévision.
Dans le viseur. J'ai demandé au préfet d'Assène-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin, puisque son dirigeant a relayé le message qui consistait effectivement à dire que ce professeur devait être intimidé, en relayant d'ailleurs l'adresse du collège.
Cette vidéo...
Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale, ne doit plus éduquer des enfants.
Une incitation à la haine, selon le gouvernement, qui reproche aussi à la mosquée les positions ambiguës d'un de ses imams. Pour les fidèles, cette fermeture est incompréhensible.
Je pense que c'est pas normal qu'on punisse toute une communauté pour une personne qui a relayé une information. C'est pas normal. Après, il faut s'en prendre à la personne directement, celui qui a fait ça, pas toute une communauté.
Le recteur de la mosquée se défend de toute incitation à la haine et admet que la diffusion de cette vidéo était une erreur. Il regrette cette décision brutale.
On est entré dans un engrenage où on n'est plus dans la modération. On est parti dans quelque chose qui dépasse tout le monde.
Une mosquée fermée pour avoir partagé une vidéo sur des réseaux sociaux. Et voilà aussi ces réseaux sociaux pointés du doigt. Marlène Schiappa recevait aujourd'hui les plateformes Internet pour leur demander de lutter davantage contre le cyber-islamisme.
Je ne peux pas admettre que des petits-enfants tombent sur des vidéos de lapidation, de décapitation, sur des photos terribles et soient ensuite endoctrinés avec ces appels à la violence et ce cyber-islamisme. Nous avons besoin que les réseaux sociaux, encore une fois, prennent leurs responsabilités et répondent rapidement. On ne peut pas considérer que des réponses comme « on est en train de regarder, on va voir ».
Mais l'État a-t-il vraiment les moyens d'agir ? Au printemps dernier, la députée Laetitia Avia proposait une loi contre la haine en ligne. Elle prévoyait notamment de lourdes amendes pour les plateformes en cas de propos haineux. L'opposition, de gauche comme de droite, rejette alors cette loi en bloc.
Pour lutter contre un mal, elle atteint un bien commun qui nous est cher et qui est la liberté d'expression.
Les opérateurs, ne voulant pas être sanctionnés, bloqueront de manière quasi systématique sur la base d'algorithmes en fonction de certains mots.
Vous transmettez aux GAFAM le soin de déterminer qui aura le droit de parler, de quoi il aura le droit de parler.
Saisi par le Sénat, le Conseil constitutionnel a censuré la quasi-totalité des articles de la loi. Des actes à l'épreuve du droit, il en est encore question aujourd'hui, selon le ministre de la Justice, qui met en garde contre les annonces précipitées.
Je ne peux pas venir ici avec des mesures et des propositions qui n'ont pas encore été complètement finalisées. Pourquoi ? Il y a un juste équilibre à trouver entre ce que l'on voudrait faire parfois dans la révolte et ce que l'on peut faire sous l'Empire et sous l'égide du droit.
Parmi les annonces du gouvernement, celle de dissoudre certaines associations fait polémique. Le collectif contre l'islamophobie est par exemple visé. Absurde selon son fondateur.
Le CCIF bénéficie du statut spécial consultatif auprès de l'ONU, est régulièrement consulté par la CNCDH en France, a des relations de travail avec le défenseur des droits. Donc vraiment, il y a ce décalage total entre la respectabilité du CCIF au niveau international, son utilité et le tableau qui en est dressé sur le plan politique. Sur une base juridique comme factuelle, ça va être très compliqué de dissoudre une association dont le principal travail, c'est de faire valoir des droits et de préserver des libertés fondamentales de nos concitoyens musulmans.
Après le temps des annonces, le temps du recueillement. Demain soir, un hommage national au professeur assassiné sera rendu dans la cour de la Sorbonne.
Et cette question qui nous est posée ce soir par Olivier, qui habite dans l'Aisne, la France peut-elle lutter efficacement contre l'islam radical sans renoncer à sa tradition des Lumières et devenir liberticide ? C'est vrai que c'est la question qui nous est posée, collectivement.
Mm-hmm. Et c'est une question qui peut se poser sur des choses extrêmement concrètes. Parce que quand j'écoutais Marianne Schiappa tout à l'heure, là, et en fait, pardon pour elle, mais j'ai le sentiment qu'elle a 5 ans de retard dans ce qu'elle raconte. Quand on est plusieurs à avoir fait des livres sur les djihadistes et sur la façon dont ils sont partis en Syrie, avec quelles images à l'esprit, et tous partaient avec des vidéos qui circulaient sur Facebook, avec une célèbre chaîne qui s'appelait Sabre de Lumière sur le réseau Telegram, qui était animé par un Rachid Kassim qui a télécommandé depuis la Syrie 10 d'attentats. Et ce qu'elle raconte ce matin sur RTL, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 4 ans. Aujourd'hui, on va voir ce que dit l'enquête sur Conflans. Mais je pense que les messages sont bien davantage passés par WhatsApp, par des messageries privées, etc. 4 ans pour la nouvelle économie, pour les réseaux Internet, c'est extrêmement rapide. Donc le politique réagit effectivement très fort, avec des mots d'expression extrêmement prononcés. Mais techniquement, je pense qu'il est un peu en retard. Et effectivement, le grand risque, c'est de se dire on coupe tous ces réseaux de façon arbitraire et sans prendre en compte les libertés de communication et de lumière, comme vous disiez, qui peuvent circuler.
L'équilibre est difficile à trouver entre faire supprimer des contenus qui sont des appels à la violence, au harcèlement, etc., et en même temps respecter la liberté d'expression, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, parce que l'ennemi est malin. L'ennemi
il joue de nos faiblesses, enfin de nos forces.
Mais passera d'un réseau ou à un autre. C'est l'évidence même. Toutes les générations qui sont aujourd'hui dans les lycées savent fonctionner leur smartphone mieux que tout le monde et passer par un réseau. S'ils ne peuvent pas passer par Facebook, ils passeront par Instagram, etc. Il y a même jeuxvideo.com qui était une plateforme il y a quelques années qui faisait passer des messages de haine. Donc cette adaptation, elle est très difficile parce qu'elle remet en cause effectivement l'utilisation de la liberté.
Là, pour le coup, vous dites qu'on est désarmés.
On n'est pas désarmé. Si on prend des décisions fortes, on est obligé de faire des sacrifices de liberté.
Alors, une décision forte, c'était le projet de loi porté par la députée Avia, qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, justement, qui décidait d'être plus sévère à l'endroit des plateformes pour leur demander de réguler davantage leur contenu de haine, d'appel à la violence. Et pour le coup, cette loi a été détricotée par le Conseil constitutionnel. Là, on voit bien que, c'est d'ailleurs ce que dit Marine Le Pen, qui dit « on est en guerre, il faut donc une justice d'exception ».
Alors, d'abord, il faut revenir sur cette proposition de loi Avia, qui avait été adoptée, déférée au Conseil constitutionnel et retoquée pour son article premier. Alors peut-être était-il mal écrit, c'est ce que beaucoup ont signifié. On verra ce que fera le gouvernement. Ouais. Il faut rappeler juste sur un point purement technique, c'est que les propositions de loi ne passent pas par le filtre du Conseil d'État, contrairement au projet de loi. Et cette loi, finalement, sans doute, avait aussi des problèmes d'écriture. Peut-être que le gouvernement, s'il la reprend dans sa future loi sur le séparatisme, peut-être qu'ils arriveront à contourner cette question. Mais il y a quand même une naïveté du Conseil constitutionnel qui, effectivement, penche plutôt toujours du côté de la liberté, de liberté d'expression et peut-être ne prend
pas
en compte aussi. Alors, c'est peut-être pas son rôle, mais en tous les cas, c'est ce que beaucoup, un peu de manière unanime aujourd'hui à l'Assemblée, disent. Maintenant, quand on regarde aussi ce qu'il y avait dans la proposition de loi Avia, je ne suis pas sûr que ça aurait entraîné le retrait des vidéos qu'on pointe aujourd'hui du parent d'élève et du reste de M. Sifruit qui a largement participé au harcèlement du professeur de Conflans. D'ailleurs, la ministre qui a reçu aujourd'hui, qui a convoqué aujourd'hui tous les responsables des plateformes, ils ont dû aussi quelque part reconnaître, enfin, en tous les cas, les plateformes, c'est pas la première fois qu'elles vont voir un ministre. C'est pas la première fois que les plateformes travaillent avec un gouvernement. Il se trouve que en 2015, avait été mis en place quelque chose un peu technique qui s'appelle le groupe de contact permanent qui permettait à l'État de travailler avec les plateformes. Ça avait quand même permis, il y a eu 16 réunions, ça avait quand même permis justement d'organiser un peu, d'obliger un peu les plateformes. Et ça s'est amélioré, objectivement, après de manière inégale, parce qu'on dit toujours les plateformes, mais il y en a certains qui font vraiment des efforts sur la haine en ligne, Facebook et d'autres, et puis il y en a qui sont dans le collimateur un peu plus, genre Twitter. C'est le cas aujourd'hui. La ministre, ce matin, avait clairement Twitter en ligne parce que, dans l'enquête, on voit que le tueur avait posté ces dernières semaines et derniers mois des photos de décapitation. Voilà.
Donc, il avait été signalé. Hein.
Ça avait été signalé à la plateforme Pharos. Donc, résultat des courses, il relance ce groupe de contacts qui dormait depuis 2019. Il a fonctionné de 2015 à 2019 pour essayer à nouveau que l'État ne soit pas face aux plateformes, mais qu'ils travaillent ensemble. La première réunion aura lieu la semaine prochaine. Peut-être que ce contact va permettre à nouveau de faire travailler tout le monde, et notamment les plateformes qui sont, on va dire, peut-être moins armées ou qui sont un peu plus laxistes, ou qui tardent à retirer les contenus, même si aujourd'hui, il y a quand même eu des améliorations. Dernier point quand même, il reste toujours la question de l'anonymat qui est quelque chose de très important. Alors, il faut savoir que l'anonymat, c'est une des grandes questions. En fait, on peut retrouver les gens derrière l'anonymat.
Quand on leur demande de le faire, ils les retrouvent.
Ça coûte cher. Le problème aussi, c'est que dans des actions privées, ça coûte cher. Et ça, c'est aussi un des problèmes.
Raphaël Baquet, vous voulez dire un mot ?
Oui, votre téléspectateur a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui est mis en place heurte nos grandes lois fondamentales. La liberté d'association aussi, qui est une loi très importante, dont les principes sont inscrits dans le préambule de la Constitution.
Loi de 1901.
Et c'est vrai que depuis 1989, les premières revendications sur le voile à l'école, on voit bien que les islamistes, pour employer un mot général, ont très finement compris à la fois nos grands principes et jouent sur les problèmes juridiques. Et le CCIF, dont on voyait tout à l'heure le représentant Marwan Mohamad, a une équipe d'avocats très, très aguerris pour justement contester au nom de nos propres lois et de nos propres principes. La liberté de se vêtir pour le voile, la liberté d'association pour toutes les associations possibles et imaginables qui prônent le salafisme. Donc on a été pendant longtemps démunis. Aujourd'hui, on l'est quand même beaucoup moins.
Parce qu'il y a des dissolutions d'associations lorsqu'il est avéré qu'elles font passer les lois de l'islam devant celles de la République ?
Oui, mais c'est très difficile parce que vous vous heurtez justement à cette loi de 1901 sur la liberté d'association.
Donc ça veut dire que ce ne sera pas si simple que ça de dissoudre ces deux associations parce qu'il y a le CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France, et Baraka City.
Ce ne sera pas si simple, mais c'est la première fois qu'il y a un discours très ferme. Et ce qu'on entend au gouvernement, c'est l'idée que, en tout cas, en tenant ce discours, on ne s'adresse pas seulement à la population qui a envie d'entendre aussi ce discours, mais aussi à la mouvance islamiste. C'est-à-dire qu'on lui dit... ça ne va plus être aussi facile qu'auparavant, et on essaie de briser ce qu'on appelle, je crois que c'est Gilles Kepel qui a soufflé cette expression au gouvernement, mais l'islamisme d'atmosphère, c'est-à-dire tout ce qui est l'idéologie au fond, qui permet de cultiver et de baisser les yeux là-dessus.
Mm-hmm. Une perspective un peu différente sur tout ça. Je crois que ça peut être intéressant de soigner le patient plutôt que le thermomètre. Et les réseaux sociaux, c'est le thermomètre. C'est-à-dire que c'est les contenus qu'on va trouver sur Internet, dans une grande proportion, ils sont faits par des gens. Ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Alors, effectivement, quand on constate qu'il y a entre 50 et 70 % de contenus sur Internet qui sont plutôt liés à l'islamisme qu'à une perspective qui est l'islam des Lumières, ça pose question. Ceci étant, toute cette matière, elle est diffusée par des vecteurs.
Ouais, bien sûr.
Donc, on retombe sur nos leaders charismatiques, nos prêcheurs, nos associations, etc. On pourrait peut-être, dans un premier temps, faire l'économie d'un dispositif qui, à la fois, peut être liberticide. Moi, je trouve ça assez facile, la plupart du temps, de retomber sur un certain nombre de plateformes pour dire « vous ne faites pas votre travail », etc. Ou, bon, ça me paraît quand même un peu simple. Certes, on aura encore des contenus qu'il faudra interdire, mais ça aussi, on sait le faire. Mais par contre, faire, à la fois pour des raisons opérationnelles qu'on peut faire, parce qu'on notera que quand on veut dissoudre des associations d'ultra-droite, on sait le faire. Je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose sous cette question. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit juridiquement constitué. On a le problème avec l'ultra-gauche, qui souvent n'est pas juridiquement constitué. Donc là, on peut quand même y arriver. Et ensuite, il y a un certain nombre de gens dont on sait qu'ils animent ces structures, qu'on peut fatiguer beaucoup, voire dans un certain nombre de cas, condamner.
Le problème, c'est qu'il peut y avoir un discours ensuite d'islamophobie qui serait fait, un procès en islamophobie qui serait fait au gouvernement en s'attaquant d'une certaine manière à des associations comme celle-ci. Et c'est vrai qu'on entend déjà la petite musique des défenseurs de ces associations qui disent « bah non, sur quel levier ?»
Et d'un point de vue de guerre d'information, il y en aura une. Et ils vont la faire.
D'accord.
Parce que l'islamophobie étant un concept qui fait partie de la stratégie des islamistes. Ils ont déjà commencé à le faire depuis des années. Il n'y a pas de
raison. Et ils vont continuer à le faire.
Voilà. Par contre, ce que l'on sait de ces gens, c'est qu'ils reculent quand même devant les grosses divisions. C'est-à-dire qu'ils sont forts tant qu'on est faible. Donc, il y a effectivement, je suis d'accord, il y a la réalité juridique et opérationnelle et il y a un affichage. Le gouvernement aussi fait de la guerre d'info. Il leur dit maintenant, attention, ça commence à bien faire.
Ouais. Mais il y a un an, le 10 novembre, il y a eu une manifestation organisée entre autres par le CCIF. Et derrière, il n'y a pas eu une immense réaction, alors qu'ils ont défilé dans Paris, je crois qu'ils étaient autour de 15 000. Il y a même un des personnages qui était dans votre reportage qui a scandé à Allah Akbar sur la place de la République. Et au fond, c'était une démonstration de force, comme jamais ils avaient réussi à le faire. Donc, ce que dit aujourd'hui Gérald Darmanin quand il dit je vais dissoudre le CCIF, c'est aussi tirer les leçons de ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, et notamment il y a un an avec cette manifestation.
J'insiste sur le temps de l'infusion.
Oui, c'est-à-dire le temps de l'infusion, il faut m'aider là.
C'est-à-dire qu'entre le moment où l'État prend conscience de certaines choses et le moment où il réagit, on serait très loin là-dessus, les calculs politiques, l'opportunité, l'acte d'émotion, etc., ça peut prendre un peu de temps. Donc il y a des choses, encore une fois, qui sont en caisse, mais qui ne ressortent qu'aujourd'hui.
Mathieu Delahousse, c'est juste une question très simple avant de passer au deuxième reportage. Est-ce qu'on a les moyens, les outils juridiques ? On a parlé de la fermeture d'une des mosquées. On a parlé de la dissolution d'associations. Quand, encore une fois, pardon d'y revenir, Marine Le Pen dit il faut une justice d'exception. On est là, si on parle de la crise sanitaire, on a mis en place des mesures d'exception. Il faut une justice d'exception pour frapper fort et pour que les islamistes ne puissent plus profiter des faiblesses que peuvent présenter un État de droit. Est-ce que les outils, on les a ? Puisque nous posons la question de savoir si nous sommes désarmés.
La justice administrative, elle agit. On en a parlé avec les fermetures de mosquées, fermetures d'associations. La justice judiciaire, elle n'a pas arrêté de se réarmer depuis 5 ans avec des moyens d'enquête et des moyens de coercition de plus en plus forts, des condamnations de plus en plus lourdes. En réalité, après, il faut savoir ce qu'on... Ça rejoint exactement la question sur les lumières tout à l'heure. Oui. C'est est-ce qu'on répond à cette barbarie absolue qui nous soulève tous le cœur avec des mesures simplistes qui n'ont aucun sens en démocratie, ou est-ce qu'effectivement, même si parfois ce sont des pièces de théâtre incomplètes, on offre une vraie justice ? Pour l'instant, on offre une vraie justice et pas une justice d'exception. Et cette justice-là, elle marche ou elle ne marche pas. On a parlé tout à l'heure du Conseil constitutionnel qui a censuré un autre texte important en matière de terrorisme il y a peu de temps, qui était celui des sortants, où tout le monde a crié en disant « Mon Dieu, que le Conseil constitutionnel est naïf, des sortants vont passer à l'action. » Mais le fonctionnement démocratique.
Il était naïf, il ne demandait pas grand-chose dans le projet de loi. C'était porter, c'était aller une fois, pointer une fois par semaine au commissariat et porter un bracelet.
Mais ça revenait sur un seul principe, qui était le principe que quand on a
été jugé,
on a payé sa peine. Et qu'effectivement, ça, c'est un principe démocratique, républicain et constitutionnel.
Quand vous dites les sortants, c'était les terroristes qui avaient été condamnés, qui avaient pu juger leur peine et qui étaient libérés.
On a l'arsenal juridique, c'est la volonté politique souvent qui fait défaut. Et là, on va voir si la volonté politique va suivre. Souvenons-nous quand même qu'il y a un an, quand il y a eu l'attentat à la préfecture de police de Paris, il y a eu des expulsions. Il y a 2 ans, quand il y a eu Trèbes, il y a eu quelques expulsions. Puis derrière, ça s'est un peu arrêté.
Et alors, vous savez quoi ? On va poursuivre cette conversation parce qu'il y a un autre sujet sur le peut-être où il est question de volonté, de volontarisme politique. C'est un sujet, en tout cas, qui suscite toujours beaucoup d'incompréhension. Les fichiers S, c'est quelques 22 000 personnes en France identifiées et suivies par les services au nom de la sûreté de l'État. Gérald Darmanin a promis d'en expulser 230 soupçonnés de radicalisation et en situation irrégulière. Mais vous allez le voir, cela nécessite des procédures pas toujours si simples. Myriam Zéhar, Laura Rado et Pierre Dehorne.
Combien de fichiers S qui sont de nationalité étrangère, qui sont des personnes qui ont un lien objectif avec le fondamentaliste islamiste, ont été expulsés ? Zéro, rien.
Je ne suis pas pour faire en sorte que tous les fichiers S, quelle qu'elle soit, alors que c'est un signalement administratif, soit tout d'un coup expulsé. C'est normal que la justice mette son nez dans cette affaire.
On sait qu'il y a des éducateurs sportifs fichés S qui enseignent à nos jeunes dans les clubs sportifs. Qu'est-ce qu'on attend ?
Les fichés S, un sujet qui fait polémique après chaque attentat. Alors cette fois, le gouvernement veut agir vite. Gérald Darmanin promet d'expulser 231 fichés S en situation irrégulière et tente de faire de la pédagogie. Chiffre à l'appui.
Il y a 22 000 personnes qui sont fichées pour islamisme radical suivies. services. Tous ne sont pas en France, puisqu'il n'y a que 8000 fiches actives sur ces 22 000. Il y a beaucoup de gens que nous avons déjà expulsés, sous le gouvernement de M. Valls, M. Cazeneuve et sous le nôtre. Sur ces 8000 fiches actives, il y a, on l'a dit hier, à peu près 600 étrangers en situation irrégulière. Sur ces 600 étrangers en situation irrégulière, il y en a beaucoup qui sont déjà en prison et qu'on n'expulsera qu'à la fin de leur peine de prison. C'est comme ça.
Au total donc, 231 personnes fichées S en situation irrégulière pourraient être expulsées. 180 sont incarcérées actuellement, 51 vont être interpellées. Mais le ministre a-t-il les moyens d'aller au bout de sa démarche? Cet avocat n'y croit pas. Une expulsion définitive est une procédure très longue et complexe. La plupart du temps, les autorités privilégient ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français.
Ça veut dire que derrière, et ben après, il pourrait, le cas échéant, revenir en France en redemandant un visa. Après, c'est aux différents consulats d'accepter ou pas de ces demandes. Mais ils pourraient en soi revenir parce qu'on les a juste dit de repartir chez eux parce qu'ils n'avaient pas de papier. Mais rien ne leur interdit, en tout cas, ce n'est pas ce document-là, sous cet arrêté-là, qui leur interdit de revenir en France.
Des procédures d'expulsion compliquées, d'autant que la France doit aussi obtenir l'accord des pays d'origine pour renvoyer les personnes concernées. Les 231 fichés S expulsables seraient essentiellement originaires du Maghreb ou encore de Russie. Tout dépend des Tchétchènes. Gérald Darmanin multiplie les visites diplomatiques en Algérie et en Tunisie dans les jours à venir, au Maroc la semaine dernière.
Avec nos collaborateurs, on a pu travailler sur un certain nombre de sujets qui touchaient à la sécurité nationale, à la lutte contre le terrorisme et puis voir comment nous pouvions améliorer le travail que nous faisons ensemble.
De grandes annonces qui se heurtent à la réalité. François Hollande s'y est lui aussi confronté. Au lendemain des attentats de Paris, il annonce solennellement devant le Congrès à Versailles vouloir étendre la déchéance de nationalité aux binationaux nés français.
D'adopter un régime juridique complet. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité.
Un projet qui sera abandonné. La déchéance de nationalité reste une procédure exceptionnelle, réservée aux binationaux qui ont acquis la nationalité française.
On ne peut la retirer qu'aux personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont conservé leur première nationalité. Ça n'est pas aussi simple. Il faut que ce soit validé quand même par le Conseil d'État lorsqu'on a une déchéance qui est proposée. Alors les dernières propositions ont systématiquement été validées. Mais il faut aussi prendre en considération le fait, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on fait ça pour un effet d'annonce? Ou est-ce que ça a vraiment un effet pour décourager les actes terroristes?
Malgré le volontarisme affiché par les gouvernements successifs, seules 14 personnes ont été déchues de leur nationalité française pour terrorisme.
Et cette question, y a-t-il encore des fichiers S qui travaillent à la RATP ou à la SNCF?
Ils ont beaucoup progressé.
C'est vrai? Mais ça veut dire qu'il y en a encore?
Ça veut dire après que...
C'est la SNCF qui a progressé, pas les terroristes.
Oui, tout à fait. C'est les entreprises publiques qui ont progressé, ne serait-ce parce que les liens sont très étroits maintenant avec les services de sécurité et de renseignement. Donc, dès qu'ils commencent à se douter qu'ils ont un problème, ils le traitent. Dans le passé, ça a été beaucoup plus grave. Mm-hmm. Donc, ça s'est considérablement amélioré.
Mathieu Delahousse.
Il y a des nouvelles procédures qui effectivement sont lancées avec des avis d'incompatibilité qui peuvent être prononcés à l'occasion de changements de poste. L'idée n'était pas tant une idéologie souterraine qui était crainte, mais des passages à l'action, notamment des conducteurs d'engins, etc. Mais là encore, il y a... C'est un droit légitime, donc ce n'est pas forcément une guérilla judiciaire, mais il y a des recours devant les conseils d'État qui sont extrêmement développés, extrêmement importants. Et il y a des réintégrations d'agents qui, après avoir été exclus de leur administration d'origine, c'est arrivé dans l'administration pénitentiaire, par exemple, dans le sud-ouest de la France, sont réintégrés et continuent à être effectivement l'objet d'une surveillance. Alors bon, la fiche S, c'est toujours un outil compliqué. Ils sont
Vous avez raison de dire que c'est un outil compliqué. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais je voudrais vous poser une question. C'est vrai que pour les gens qui nous regardent, ça paraît assez... surprenant d'entendre le ministre de l'Intérieur dire, alors voilà, il y a 231 personnes qui sont illégalement sur le sol français, donc étrangers en situation irrégulière, fichés S, et on doit pouvoir les expulser, mais ce ne sera pas si simple. Il faut d'abord faire un tour, ce qu'il a fait au Maroc ou ce qu'il peut faire en Algérie, pour avoir l'accord du pays d'origine.
Oui, alors les réponses sont compliquées, mais juste le ministère de l'Intérieur, il y a deux choses. Il y a un homme politique et il y a une administration. L'administration, elle lui met plein de petites fiches sur son bureau tous les matins.
Il lui dit que ce n'est pas possible.
On a des tas de personnes qui sont fichées S, on a des tas de personnes qui sont en situation irrégulière, et effectivement, le reste, c'est la décision politique. Mais sur la tournée faite dans les pays effectivement du Maghreb pour les expulsions, il y a un cas d'école qui est assez récent, mais qu'on a sans doute tous oublié, c'est Jamel Begal, qui est l'inspirateur notamment des frères Kouachi, algériens, arrêté à Dubaï après avoir tenté une opération, selon les Américains, contre l'ambassade de France, selon l'ambassade des États-Unis à Paris. Il est emprisonné en France, il arrive au bout de sa peine, et que se passe-t-il? Une panique s'empare de l'exécutif à ce moment-là pour savoir que faire de cet homme. Est-ce qu'on le renvoie à Murat, dans le Cantal, assigné à résidence, où il pourra recevoir des visiteurs pas forcément recommandable, où est-ce qu'on va, et c'est ce qu'ont fait les autorités françaises secrètement à ce moment-là en Algérie pour lui dire est-ce que vous voulez bien le récupérer. Ça, c'est passé pour Jamel Begal. Jamel Begal, tout le monde connaît. Aujourd'hui, effectivement, sur le nombre de dizaines de personnes qui sont concernées, ces négociations peuvent se poser avec des pays de façon individuelle, et avec l'acceptation individuelle qui doit être recueillie.
Ils peuvent dire non, on n'en veut pas.
C'est, encore une fois, c'est de la politique, c'est une décision politique de nation à nation.
Dizaines,
bon, jeudi.
Beaucoup plus. On estime aujourd'hui, ce sont des chiffres qui viennent de rapports parlementaires, entre 2018 et 2022, c'est 2500 sorties de prison pour ce qu'on appelle des terroristes islamistes ou des détenus de droit commun soupçonnés de radicalisation. Et il y en a 2000 qui sont sortis. Donc le problème,
tous ne sont pas étrangers.
D'accord, mais le problème ne se limite pas à quelques dizaines. C'est ça la difficulté. S'agissant des fichiers S, étrangers en situation irrégulière, fichés S, effectivement, Gérald Darmanin a entrepris sa tournée diplomatique parce qu'il sait qu'il faut qu'il ait l'accord du Maroc, peut-être l'accord de l'Algérie, l'accord de la Tunisie, la Russie, ce sera une autre affaire, pour essayer de pouvoir faire partir, parce que s'il n'a pas ses laissez-passer consulaires, eh bien, il les gardera sur les bras.
Et que dire des binationaux?
Absolument, Gérald Darmanin applique la même méthode que Nicolas Sarkozy avait lui-même adoptée lorsqu'il était ministre de l'Intérieur au début des années 2000, où il avait fait la tournée des pays du Maghreb et aussi des pays de l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone, pour essayer de... améliorer les statistiques en matière d'expulsion et surtout en obtenir, parce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, le nombre d'expulsions vers le Mali, où, bon, alors après, il y a les situations. D'abord, il faut ajouter qu'il y a la situation sanitaire, la situation de pays qui sont en guerre, donc c'est très compliqué, mais quasiment, on est à zéro, quasiment.
Mettons-nous juste à la place des gens qui nous regardent, qui vont d'effroi en effroi, avec des attentats sur le sol français de plus en plus brutaux, le dernier en était un, et à qui on dit, les fichiers S, à chaque fois les débats reviennent, y compris, on l'entendait dans le reportage, le débat sur la déchéance de nationalité, la question des binationaux. Encore une fois, pardon de citer Marine Le Pen, mais elle a fait une grande sortie hier où elle a fait des propositions en disant un binational fichier S pour islamiste doit être déchu de sa nationalité et renvoyé. Alors ça paraît comme des mesures très simples dans la voix de Marine Le Pen. On voit bien que c'est un débat qui agite la classe politique et les présidents successifs depuis des années.
On a mythifié le fichier S. Oui. C'est-à-dire que, c'est pour ça, les gens, dans leur tête, c'est le fichier S, c'est un terroriste dont il sait qu'il est terroriste et qui va passer à l'acte. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Vous avez des fichiers S qui sont dans des réseaux qu'on veut garder à l'œil, qui sont des gens qui fréquentent des gens qu'on peut estimer dangereux, mais qui eux-mêmes ne le sont pas forcément. Et c'est un outil de renseignement. Et à force de vouloir laisser subsister l'ambiguïté que les fichiers S sont tous des si parce qu'ils deviendraient des terroristes, on finit par ne plus rien comprendre. Vous avez des fichiers... Alors, c'est compliqué à dire, mais je vais le dire quand même. Mm-hmm. Vous avez des fichiers S dont on a besoin pour garder un certain nombre de traces et reconstituer des réseaux. Ce débat, en fait, est venu sur la place publique, alors que pour le coup, c'est un débat de technicien qui n'apporte pas grand-chose au débat public. Parce que, par exemple, l'espèce de barbare qui a tué Samuel Paty n'est pas fiché S.
Mais Abdelhakim Sefri, oui, est fiché S.
Oui, mais c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, il faut travailler sur des logiques de réseau. La question, c'est comment un fiché S, un idéologue, un type qui ne l'est pas, comment tout ça fonctionne en système. Et nous avons dans notre pays une difficulté à penser le salafisme, l'islamisme de manière générale, en système, parce que l'islamisme, jusqu'à présent, avait une stratégie, Il y a un soft power islamiste qui peut déboucher sur des attentats, alors que nous, nous n'avions pas de stratégie digne de ce nom, parce que tout était polarisé sur les services de sécurité. Tant qu'on a une stratégie qui repose que sur les services de sécurité et qui en fait des boucs émissaires, on ne comprend pas le reste. Le signal fort qui est donné ces derniers temps, c'est on a bien compris qu'il se passe quelque chose dans la société civile qui est le carburant de l'acte criminel.
Raphaël Baquet.
Oui, le problème aussi, c'est que personne n'en veut. Je vais dire ça un peu brutalement pour nos téléspectateurs, ça va les choquer, mais c'est vrai que, évidemment, ni l'Algérie ni le Maroc ne veulent retrouver des islamistes. Eux-mêmes, ils mènent la guerre contre eux. Donc, bien sûr, personne n'en veut. Je me souviens très bien à Trappes, où des anciens du GIA étaient arrivés en France, avaient réussi à avoir une espèce de statut, et puis on a voulu les expulser, et là, il faut négocier au cas par cas avec l'Algérie hein, pour les récupérer des anciens du GIA. Personne n'en veut. Donc, c'est vraiment très compliqué, et c'est ça qui se passe. Et c'est ce que Gérald Darmanin va faire, comme d'autres ministres de l'Intérieur avant lui, à vrai dire. Il négocie point par point, chiffre par chiffre, ceux
d'ailleurs,
qui vont être...
D'ailleurs, à ce stade, il faudra ajouter, Raphaël Baquet, que nous-mêmes, nous ne voulons pas de ceux qui sont en Syrie ou en Irak, qu'on n'a pas envie de voir revenir. Donc c'est aussi ça la difficulté, quand Gérald Darmanin va discuter avec ses homologues dans les pays du Maghreb ou d'autres pays. Bah oui, mais
on est bien content de les laisser là-bas et on ne veut pas les récupérer. Juste quand même un mot sur Abdelhakim Sefrioui. Dans tous les portraits qui sont faits de lui, on dit, alors c'est un vieux routier, il y a eu cette expression, un vieux routier de l'islam radical, il est dans tous les mauvais coups, etc. Mais il est toujours là.
Tous les mauvais coups depuis...
Et pourquoi il est toujours là? Et pourquoi il a toujours une capacité de nuisance?
C'est la capacité de nuisance, effectivement, elle est à évaluer à l'aune du code pénal. On est encore aujourd'hui là. C'est-à-dire que c'est un homme qui est né en 1959, qui est franco-marocain, qui effectivement s'est illustré contre des institutions nombreuses, dans des positions aussi sur les réseaux sociaux très, très fortes. Mais tant que ça reste dans les clous, effectivement, il n'y a pas de secret. Et c'est un peu l'honneur de la France. Après, effectivement, il ne faut pas que cet honneur s'effrite trop aux yeux de l'opinion publique. Mais ce qu'il faut peut-être répondre par rapport à votre question tout à l'heure sur l'opinion publique, c'est que l'exécutif avait une vraie solution technique, elle aurait été prise depuis longtemps en termes de diagnostic individuel, en termes de progression des individus, en termes de détection du passage à l'acte. Et il suffit 5 ans dans une histoire, c'est finalement assez bref. Aujourd'hui, c'est tellement multifactoriel les passages à l'acte. Celui de Conflans le montre avec, en termes scientifiques, on appellerait ça une originalité. Mais c'est vrai que les critères sont tellement nombreux que si l'exécutif avait trouvé une solution, et je pense que les solutions qui sont proposées à droite de l'hémicycle ne sont pas forcément techniquement les plus pertinentes et seraient sans doute...
Juste
sur Sefrioui, un petit mot quand même. Quand même quelqu'un qui est dénoncé par les associations musulmanes de Seine-Saint-Denis comme sulfureux, comme extrêmement violent. Il a été dans tous les mauvais coups. Il est allé manifester parce que l'imam de Drancy, connu Chalgoulmi, était trop ouvert. Donc il est allé manifester chez lui. Ensuite, il est allé contester toutes les lois contre le voile. À Saint-Ouen, on le retrouve quand il y a 2 filles en jupe qui sont pas expulsées. Donc, c'est quand même quelqu'un qui illustre parfaitement les trous de raquette qu'il peut y avoir, parce que fiché S, ils ont essayé même de le déchoir de sa nationalité. Il s'est ensuite marié avec une Française convertie. On a le cas typique du type qui essaie par tous les biais d'échapper
et qui passe. Et on va poursuivre notre discussion. C'est l'une des autres annonces d'Emmanuel Macron dans son discours contre le séparatisme. Souvenez-vous, le président a promis que des imams seront bientôt formés en France sous l'autorité du Conseil français du culte musulman, un moyen de mettre fin, selon lui, à l'influence étrangère. Mais là encore, le chemin est bien moins évident qu'il n'y paraît. Julien Launay, Emilien David et Pierre Millet.
Ils sont là pour rendre hommage à Samuel Paty et exprimer le chagrin de la communauté musulmane. Hier à Conflans-Sainte-Honorine, des imams viennent déposer une gerbe devant le collège de l'enseignant. L'occasion de lancer un appel à la responsabilité.
Un homme, ils ont décapité sa tête. Plein rue à Paris, c'est pas à Bagdad. C'est... Si on se réveille pas pour ça, désolé, je comprends pas à quel stade où la société elle va se réveiller, ou surtout la communauté musulmane, les recteurs des mosquées, les imams, les parents, les responsables associatifs, réveillez-vous.
Cet attentat remet sur le devant de la scène un vieux dossier non réglé, celui de la formation des cadres religieux et notamment des imams. Depuis longtemps, la classe politique s'interroge. En 2015, après les attentats de janvier, le Premier ministre de l'époque en avait déjà fait une priorité.
La formation, c'est en effet une des clés si l'on peut être la clé d'un islam qui se construit ici en France en toute indépendance, libéré d'influences, parfois néfastes, pas toujours, mais parfois néfastes, venues de l'extérieur.
Le temps passe, mais le nombre de formations en France est toujours aussi limité. L'une des rares se trouve ici, à la mosquée de Paris, d'où une dizaine d'imams sortent chaque année. Parmi les aspirants, il y a ce quinquagénaire.
Le maître qui est là, qui est professionnel, qui est spécialiste dans la matière, il va m'aiguiller, il va m'orienter vers mes discours, comment je dois faire le discours, comment je dois donner le discours, comment je vais m'adapter à la société.
Étudier le Coran, mais pas seulement. Au programme dans le cursus, la laïcité et le droit français enseignés pendant un an dans une université publique. L'objectif étant de s'adapter aux règles de la société.
Je vous donne un exemple d'un imam à qui on vient lui poser une question. Si une femme, par exemple, est amenée à être soignée par un médecin d'une discipline quelconque, et que l'imam il doit comprendre que le plus important pour un musulman, c'est la santé de la femme, sans prendre en considération qu'elle soit soignée par un homme ou une femme. Bien sûr, on aurait préféré qu'elle soit soignée par une femme, mais la compétence du médecin passe en priorité.
L'imam formé aux valeurs de la République, une exception. L'apprentissage se fait souvent à l'étranger et certains sont même envoyés par leur pays d'origine. Ces détachés, comme on les appelle, arrivent principalement de Turquie, d'Algérie et du Maroc. Ils sont environ 300 et ne coûtent rien car leur rémunération est prise en charge par leur pays d'origine. La problématique financière, l'autre enjeu pour créer des vocations.
Les imams les plus compétents désertent les mosquées parce que les plus compétents demandent un salaire à la hauteur de leurs compétences théologiques et intellectuelles. Malheureusement, on préfère des imams qui viennent de l'étranger, payés par des pays d'origine, ou bien un imam qui ne coûte pas très cher. Parce que l'imam, ce n'est pas comme le prêtre. Il a des, comme on dit, il a des becs à nourrir, il a des enfants, il a une famille. Et donc ce côté matériel joue pour beaucoup.
La question du financement, au cœur de ce sujet de la formation des imams. Aucune subvention n'est possible, compte tenu de la loi de 1905.
Cette question, déjà avec Sarkozy, ministre de l'Intérieur, on évoquait la formation des imams. Quelle avancée en 20 ans? On a avancé ou pas?
Je ne suis pas certain.
Bon. Bah, entendu,
quand on voyait.
Non.
L'Institut qui forme une dizaine d'imams par an, lorsqu'il en faut, il y a 2500 mosquées en France. Donc si on supprime les... Puisque la loi de séparatisme, c'est supprimer les imams détachés, c'est-à-dire les imams venant de l'étranger.
Oui. Donc, les rapports de force ont évolué. C'est-à-dire que, par exemple, la Turquie est devenue un vrai problème. C'est-à-dire que la stratégie d'influence de M. Erdogan, notamment avec son ministre Gorad, et le fait qu'on sait qu'il y a une stratégie extrêmement offensive, ça, c'est des choses qui ont changé depuis... Enfin, en tout cas, qui se sont aggravées. Donc, cette question du rapport de force, elle fait partie de la difficulté à traiter... le thème, parce que ça veut dire aussi qu'on va durcir un certain nombre de positions avec un pays comme la Turquie, et il faut l'assumer politiquement. Donc ça fait partie de la problématique.
Mais jusqu'où on va dans le rôle de l'État vis-à-vis de la formation des imams? Là aussi, c'est un principe républicain.
Oui, mais sauf qu'il y a un besoin. Donc là-dessus, on est dans une négociation sociale et religieuse. Il y a besoin d'imams pour porter, non pas la bonne parole, ça serait assez mal exprimé de ma part, mais il y en avait besoin. Le problème s'est posé en prison. Pour rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où est-ce que va prier vendredi prochain la communauté musulmane à Pantin? Est-ce qu'on se retrouve face à son écran, face à divers réseaux sociaux? Est-ce qu'on se retrouve face à des lieux clandestins ou interlopes? C'est une
vraie question. Vous parlez de la prison parce qu'il y a des imams
et en prison,
gros, agréés,
la question s'était vraiment posée pour avoir une vraie parole responsable et légitime de l'islam dans les établissements pénitentiaires et pour déconstruire justement tout le dialogue et le discours qui est proposé à des jeunes gens pas forcément très cultivés et assez malléables auxquels on fait lire quelques sourates isolées de tout contexte.
Et ça marche,
ça marche, puisque les anachides et les sourates peuvent être répétées par des gens qui passent à l'action de façon violente, et d'avoir effectivement des imams un peu anciens, un peu responsables et qui mettent en en contexte. Ce que est le Coran, la religion et l'histoire de la religion est un sujet infiniment complexe qui, les spécialistes de la religion connaissent ça bien mieux que moi, mais qui permettent d'avoir un enseignement responsable et posé et non pas cette espèce de gadgetisation et de manipulation de la religion.
Dire, ils sont acceptés et reconnus comme des imams avec lesquels on peut travailler ou...
La difficulté dont j'ai été témoin dans les établissements pénitentiaires, c'est qu'effectivement, quand ce sont des imams qui sont recrutés à la va-vite, on entend sur des écoutes téléphoniques ou sur des choses comme ça, des jeunes djihadistes qui disent « ils m'ont fait passer au quartier d'évaluation de la radicalisation ». L'un d'eux disait, je me souviens, « j'ai vu l'imam bleu-blanc-rouge avec beaucoup d'ironie et j'essaie de passer le contrôle », entre guillemets. Donc il y a un jeu de dupes qui est extrêmement compliqué, mais c'est vrai que la priorité, c'est qu'il puisse y avoir cette expression, en tout cas, responsable et non pas fragmentée de la religion.
Et Raphaël Baquet, parfois la radicalisation, brièvement, elle se fait aussi dans le restaurant du coin et la parole religieuse, elle est portée aussi, oui, pas forcément sûr, dans des lieux de culte identifiés comme tels, comme les mosquées.
Pas forcément. C'est ce que vous avez dans les mosquées, et oui, bien sûr, à Trappe, c'était vraiment le kebab opérait le recrutement des djihadistes. Mais je voulais aussi dire que les imams bleu-blanc-rouge, comme disaient les djihadistes, on a vu M. Chalgoumi sur votre reportage, l'ancien recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubacar, ou le nouveau, sont très contestés aussi. Ils font l'objet, justement, de harcèlement.
Il y a
de
des la menaces de mort ces...
Oui, bien sûr. Ils font l'objet de harcèlement continu. Eux aussi. Donc c'est vraiment très difficile et c'est vrai qu'il faut aussi les aider.
Oui, c'est pareil que sur les autres sujets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cloisonner ce débat-là. Mmh. C'est-à-dire que les imams et leur communauté de fidèles vont également être aussi marqués par tout ce qui se passe dans le reste de la société. Le respect de la laïcité dans les écoles, c'est par exemple une chose qui va contribuer aussi à faire en sorte qu'une communauté sache ce qui est légitime religieusement et ce qui ne l'est pas. Il faut tout penser par écosystème.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Fermer la mosquée de Pantin, n'est-ce pas ouvrir les salles clandestines pour la prière, du bonus pour les salafistes? C'est ce qu'on disait à l'instant. Vous posiez la question, où vont-ils aller prier à Pantin à partir de lundi?
Personne ne le sait, mais effectivement, il faut souhaiter qu'il y ait une espèce de communauté... J'allais dire responsable, c'est pas le terme qui convient, pardon.
Qu'il y ait une solidarité
entre effectivement d'organisation sur un lieu de culte fermé.
Il y a quand même pas mal de mosquées autour de Pantin sur les communes voisines, donc après, on va voir comment ça va se passer.
Si cette mosquée ferme, ce sera pour 6 mois et après, il se passera quoi? Donc, c'est ça, les mesures efficaces?
Ça permet quand même de faire un peu le ménage, parce que là, pour le coup, les mosquées sont gérées par des associations, ça permet aussi de faire le ménage dans des mosquées qui ont franchi la ligne rouge. Ce n'est pas la première fois, encore une fois, que des mosquées sont fermées, que des associations vont être dissoutes.
Que des imams sont renvoyés.
Ce n'est pas la première fois. Donc là, on rentre dans cette phase-là. On va voir jusqu'où va le ministre Darmanin. Mais c'est aussi l'application de ce qu'a dit le président de la République, la peur d'en changer de camp. Donc aussi, c'est les associations qui sont ciblées, notamment celles qui gèrent, les associations culturelles qui gèrent des mosquées, c'est aussi une remise en cause, c'est aussi mettre fin à une forme d'entrisme, ce qui manifestement est le cas dans la mosquée de Pantin.
La guerre contre l'islamisme radical n'est pas perdue, elle est sans fin. Vous êtes d'accord avec ça, Eric Delbecq? Elle est sans fin?
Je ne crois pas qu'elle soit sans fin, elle va être très longue. Parce qu'en fait, on ne se bat pas simplement contre des gens violents, ça pour le coup, on a les services de sécurité qui, tôt ou tard, ça va venir à bout. On se bat, encore une fois, je le redis, j'essaie de pas me répéter tout en redisant un peu la même chose, c'est qu'on se bat contre une stratégie d'influence qui a des associations, certaines mosquées, des lieux clandestins, des clubs sportifs, des têtes de pont, c'est-à-dire des doctrinaires, des leaders, etc. Et ça, c'est long. Parce qu'avant d'épuiser toutes ces ressources de radicalisation, effectivement, vous prenez non pas des années, mais 20 ou 30 ans. Alors, je rejoins mon propos de tout à l'heure, parce qu'il y a un lien entre les deux. On parlait des véhicules juridiques.
Oui.
Ce qui nous manque, en revanche, et ça, ce n'est pas une loi, c'est un grand centre de veille commun à un ensemble des services compétents qui sont en capacité aussi de regarder tous ces messages de haine, mais pas que, de propagande, ce que je disais sur le tissu social, et en capacité d'y coller des motifs juridiques. Je ne suis pas d'accord sur un point que j'entends souvent dans les commentaires sur l'arsenal pénal. Il y a un certain nombre de leaders salafistes, quand vous prenez le temps de les veiller, de les écouter, mais c'est très fastidieux, vous trouvez toujours des choses répréhensibles du point de vue du code pénal, notamment en matière d'homophobie, de sexisme, etc. Mais il y en a une quantité industrielle qui sont prenables. Mais encore faut-il judiciariser. Ensuite, on retombe sur une autre question, c'est la chaîne pénale, etc., etc. Mais il y a des véhicules juridiques. Donc tout ça va être très long.
On n'a pas commenté depuis le début de l'émission, et c'est important de le faire. Le garde des Sceaux a dit qu'il n'y avait pas eu de faille dans ce qui s'est passé et qui a abouti à la décapitation de Samuel Paty.
Le terrorisme de ces dernières années montrait des vraies failles. La faille, c'est d'avoir à Saint-Étienne-du-Rouvray un gamin sous bracelet électronique qui passe à l'action. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas eu de faille. Après, Éric Dupond-Moretti a une parole, pour le coup, très prudente et responsable ce matin en mettant en avant qu'il ne peut pas arriver avec un kit tout fait. Son expérience lui permet de le dire.
Les islamistes nous font la guerre. En temps de guerre, n'existe-t-il pas la loi martiale ?
Mais c'est la question de la justice et de la juridiction d'exception. On voit bien que c'est quand même, même si effectivement on est tous sous le choc de ce qui s'est passé vendredi à Conflans, est-ce que notre société veut vivre avec des juridictions d'exception dont on sait que c'est une pente dangereuse, ou quand on commence à la descendre, on ne sait pas jusqu'où l'on va.
Et totalement inefficace.
Pour l'instant, bien sûr, en tous les cas, sur certaines qui ont existé. Le choix aujourd'hui qui est fait collectivement, ce n'est pas d'aller vers ces juridictions et ces lois d'exception. Ce sera sans doute, on voit bien que Marine Le Pen, elle veut en faire sans doute un de ses axes de sa campagne présidentielle.
Ce sera un des enjeux.
En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, et beaucoup de spécialistes, que ce soit les parlementaires qui travaillent sur ces questions depuis de longues années, ou les experts, il y a quand même le sentiment qu'en matière de terrorisme islamiste, ils ont l'impression de courir après une boule de neige qui grossit plus vite que les moyens qu'on met à leur disposition. Il y a aussi ça quand même.
Une police des réseaux sociaux sur le web est-elle une bonne solution ? Police des réseaux sociaux sur le web.
Il faudra forcément y revenir. On parlait de propagande tout à l'heure, mais c'est vrai que la notion de propagande, je vais essayer d'être rapide, mais dans les dossiers qu'on a tous vus, journalistes travaillant là-dessus, il y a 20 ans, c'était des VHS qui circulaient sous le manteau.
Des VHS, physiquement, c'est des cassettes. C'est des cassettes VHS
pour les magnétoscopes. En l'an 2000, il y avait le réseau Internet qui s'appelait Ansaralak, qui était une espèce de plateforme qui diffusait, entre guillemets, toute la mauvaise parole djihadiste pour interpréter toute actualité à la sauce radicale. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont des outils qui sont utilisés par n'importe quel adolescent et à n'importe quel âge. Donc cette police-là, elle arrivera forcément par état de nécessité.
Que reprochent très précisément les autorités au CCIF ainsi qu'à l'association humanitaire Baraka City ?
Alors, d'avoir, dans un premier temps, relayé les messages pour le dossier de Conflans. Par ailleurs, d'avoir utilisé le couvert de l'islamophobie pour organiser cette fameuse manifestation en novembre dernier à Paris, où dans le cadre, il y a eu quelques dérapages verbaux qui avaient été signalés. Et puis, Baraka City, c'est une autre particularité, puisque son chef de file est très actif sur Twitter, manipulant des messages à longueur de temps, et Baraka City joue un petit peu à la limite de l'humanitaire et du prosélytisme, tout comme avaient existé d'autres associations qui, par exemple, ont été dissoutes en 2016 en France.
Si les expulsions ou dissolutions d'associations sont si efficaces, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant ?
Il y a cette question du changement
on
de doctrine.
On l'a fait, il y en a certaines qui ont été dissoutes.
On a pu le faire, mais encore une fois, j'insiste sur le changement de doctrine. C'est-à-dire, pendant des années, je l'ai vécu, moi, à l'époque de Charlie, on sentait bien que dès qu'on demandait d'aller un peu plus loin et de prendre le problème un peu plus à bras-le-corps d'un point de vue social, il y avait des réticences énormes. En tant que témoin opérationnel, je peux vous dire qu'à l'époque de François Hollande, la ligne de partage, elle était très très clivante. D'un côté, vous avez des gens comme Bernard Cazeneuve, Emmanuel Valls, qui étaient sur une ligne assez ferme, et de l'autre, à commencer par le président de la République, qui voulait surtout pas faire de vagues. Donc, il n'y avait pas la même doctrine d'État.
La phrase de Jean Castex cet après-midi à l'Assemblée sur les associations, il dit « ce sont des associations qui manipulent les consciences ». Voici ces mots. « On devrait pouvoir expulser des fichiers S, mais souvent, les pays d'origine n'en veulent pas. Est-ce normal ?» On a compris que c'était une négociation.
C'est une négociation à travers les laissez-passer consulaires, comme on l'a dit, et ce n'est pas facile.
« Mieux vaut prévenir que guérir », dit l'adage. « Les pseudo-remèdes claironnés depuis deux jours n'interviennent-ils pas trop tard ?»
On a perdu beaucoup de temps quand même si on s'en tient à l'évolution du président de la République par rapport à son discours sur le séparatisme au Mureaux il y a 3 semaines. Et ce qu'il disait au début du mandat, on peut se dire qu'on a perdu un peu de temps.
Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.